Et c'est une semaine que je vous propose dans l'univers d'une profession, celle de sage-femme, que nous allons découvrir tout au long de cette semaine. Nous sommes installés ici à l'hôpital de la mère et de l'enfant à Limoges et on va commencer avec vous, Sophie Martinez. Vous êtes sage-femme cadre et on va déjà poser les bases de ce qu'est cet univers de la sage-femme. Déjà, le terme sage-femme, un mot, une explication.
Sage-femme, sage qualifie la personne qui a la connaissance, hein, les femmes, la parturiente ou la femme enceinte. Donc les sages-femmes suivent les grossesses, effectuent les déclarations de grossesse et suivent la patiente jusqu'au moment de l'accouchement. Elles suivent également les patientes au cours du travail et prennent en charge le nouveau-né dès sa naissance et également la maman et son nouveau-né dans la période dite des suites de couches, c'est-à-dire après l'accouchement.
Donc ça c'est pour la définition et puis il y a évidemment une formation, un parcours particulier pour être sage-femme. Ça passe par 4-5 années d'études.
5 années d'études, une première année qui correspond à la première année des études de santé en ayant l'objectif de passer le concours maïeutique et s'il est reçu à ce concours, il pourra ensuite intégrer une école de sage-femme dans laquelle les étudiants passeront 4 années à étudier la théorie, effectueront des travaux dirigés, travaux pratiques, des stages également sur le terrain. 4 années divisées en 2 phases qu'il faut chacune valider. La première phase tendant plutôt à étudier tout ce qui est la physiologie de la grossesse et puis la deuxième phase plutôt l'apprentissage du dépistage et de la prévention dans le cadre des pathologies qu'on peut retrouver dans le domaine de l'obstétrique, de la gynécologie et de la pédiatrie. La sage-femme peut ensuite choisir de se spécialiser. Nous retrouvons beaucoup de sages-femmes qui se sont spécialisées en échographie. Certaines sages-femmes travaillent dans le domaine du diagnostic prénatal, d'autres dans les centres de procréation médicalement assistée, centres d'orthogénie également. Certaines sages-femmes ont choisi de se spécialiser dans le domaine de la tabacologie, l'acupuncture, l'homéopathie. Donc la sage-femme, en fait, exerce une profession médicale avec des compétences qui sont définies dans le Code de la santé publique. Donc elle peut travailler en parfaite autonomie dès lors qu'il s'agit d'une grossesse et d'un accouchement dit physiologique, c'est-à-dire qui ne présente pas de problème particulier, et dès lors qu'une pathologie peut être mise en évidence ou est annoncée, bien sûr, la sage-femme travaillera en collaboration avec un ou plusieurs médecins.
La sage-femme participe également à la recherche, ça c'est important de le dire.
Oui, soit par le biais d'études qui sont mises en place dans les services dans lesquels elle travaille, l'évaluation des pratiques professionnelles également, et tout ça dans l'objectif d'améliorer la qualité des soins.
On estime à quoi ? 23 000 sages-femmes, je crois, aujourd'hui ?
Oui, à peu près 23 000 sages-femmes en France, dont 1,8% d'hommes. Les sages-femmes peuvent exercer soit dans les établissements de soins publics, et là on retrouve à peu près la moitié des sages-femmes qui travaillent dans ce secteur-là, les établissements de soins privés, environ 12% des sages-femmes libérales, soit installées à leur propre compte ou en association, elles sont environ 12%. On a également des sages-femmes qui travaillent pour la fonction territoriale dans le cadre de la protection maternelle et infantile, environ 4%, et puis certaines sages-femmes ont fait le choix de travailler en intérim, d'autres ont fait le choix de la médecine humanitaire ou de façon ponctuelle ou au long terme. Et il y a également des sages-femmes qui peuvent avoir fait le choix de se spécialiser et de choisir d'encadrer des équipes sur le terrain, ce qui est mon cas, ou d'être enseignante à l'école de sages-femmes.
Un mot des qualités pour vous, indispensables pour une sage-femme ?
Des capacités relationnelles, ça c'est évident, d'écoute, d'analyse aussi, et puis je dirais de réactivité dans les différentes situations que l'on peut rencontrer, notamment les situations d'urgence.
Et puis, on l'a un peu évoqué, mais c'est vrai que la sagesse n'est pas réservée aux femmes, des hommes également sont concernés, ils ne sont pas nombreux, mais on en a trouvé un. Et il est avec nous, Cyril Catalan, ça fait 20 ans que vous êtes, vous, sage-femme. Pourquoi ce choix professionnel, c'est pour tordre le cou aux préjugés ?
Oui, d'une certaine façon, c'est pour prouver que tout le monde peut être sage-femme et que c'est pas lié au sexe, mais plutôt à l'envie d'exercer cette profession.
Et qu'est-ce qui vous a attiré, vous, il y a 20 ans, pour rentrer dans cet univers ?
Ben, c'est de faire un métier médical avec des gens qui ne sont pas malades.
C'est à peu près la seule branche dans laquelle on en trouve ?
C'est la seule.
Alors, 20 ans en Limousin, ça fait 20 ans que vous repeuplez la région ?
Ah, moi, je ne repeuple pas la région. Non, non,
vous n'êtes pas responsable de toutes les naissances, on est d'accord.
Non, j'y suis pour rien. C'est vrai qu'au début, ça a suscité beaucoup de curiosité de la part de mon entourage et ça continue à susciter de la curiosité de la part de la plupart des gens, puisque déjà c'est une profession qui est assez méconnue. Et alors le fait qu'il y ait des hommes en plus qui peuvent l'exercer, c'est encore moins connu. Donc effectivement, ça a toujours suscité beaucoup d'interrogations. En même temps, c'est ce type d'interrogation qui facilite le contact avec les gens. On peut prendre les choses avec peut-être plus d'humour ou plus de détachement.
Qu'est-ce que vous apportez de différent par rapport à toutes les femmes qui gravitent autour de vous ?
Je pense que j'ai une vision peut-être un peu différente de mes collègues féminines. Moi, j'ai jamais accouché et je n'accoucherai jamais, donc je me projette pas dans la femme qui accouche. Contrairement à certaines de mes collègues, je veux dire, qui ont peut-être plus d'empathie, peut-être que je vois les choses avec un peu plus de détachement et donc peut-être une globalité de la situation plus facilement appréhendable.
C'est-à-dire aussi qu'avec la patiente, c'est une relation différente. C'est simplement qu'on s'attend peut-être forcément à avoir plus de chances de tomber sur une femme que sur un homme.
Oui, c'est un métier qui est absolument basé sur la confiance et sur le lien de confiance qu'on peut établir avec la patiente qu'on va accoucher. Après, quand on est un homme, quand on est une femme, on ne va pas le faire de la même façon, mais l'important, c'est l'établissement de ce lien. Une fois que la confiance est établie, il n'y a pas de souci.
Quand vous avez fait vos premiers pas, c'est facile de s'imposer ?
Je ne vais pas dire on trouve sa place, on fait sa place. Faire ses preuves constamment.
C'est ce qui se fait finalement dans l'inverse. Souvent, les femmes sont obligées de faire leurs preuves par rapport aux hommes. Ben là, dans cet univers, c'est l'inverse.
C'est exactement ça. On est obligé de faire ses preuves en permanence et de prouver qu'on est égal, qu'on soit un homme ou une femme, au moins dans la pratique de ce métier.
Ça veut dire en même temps pas désagréable de travailler dans un univers très féminin au quotidien ?
Ça dépend des jours, on va dire. Mais ça, je sais pas si je peux le dire.
Deuxième rendez-vous dans l'univers des sages-femmes, une profession que nous découvrons tout au long de cette semaine. On va rentrer, disons, dans le processus de ces rencontres avec la sage-femme pour les futures mamans. Et ça passe notamment par les consultations. Et nous sommes justement ici dans une pièce dédiée à ces consultations avec Sylvie Binet. Vous êtes bien sûr sage-femme. Vous allez donc nous parler de votre métier. Ces consultations, elles interviennent à partir de quel moment ? C'est très tôt, je crois, dans le processus.
Maintenant, on a la joie de pouvoir les suivre du début de la grossesse. Donc, elles ont trois échographies pendant la grossesse. Elles ont une écho à 12 semaines, qu'on appelle une écho de datation de la grossesse. Elles ont ensuite une écho à 22 semaines. Ça, c'est une écho morphologique pour s'assurer que l'enfant est bien constitué. Et une écho de croissance qui se situe vers la 32e semaine. Bon, ça, généralement, ce sont des médecins échographistes qui font l'échographie, que ce soit au sein de notre service ou alors à l'extérieur. Et donc, nous, les sages-femmes, nous prenons le relais en nous faisant la déclaration de grossesse et nous suivons ces patientes tous les mois. On leur donne tout leur planning en début de grossesse. On essaye que ce soit toujours la même sage-femme. C'est plus sympathique autant pour nous que pour elles. Il y a aussi les sages-femmes libérales qui vont prendre le relais s'il y a nécessité un suivi plus poussé sur une menace d'accouchement prématuré, sur une hypertension. Ces sages-femmes vont rendre visite à domicile de la patiente une fois ou deux fois par semaine. C'est nous, avec la sage-femme libérale, qui décidons du rythme.
Alors, le déroulement maintenant de ces consultations, prenons le cas de la première consultation. Comment ça se passe concrètement ? C'est une première prise de contact avec la future maman.
Voilà, la première consultation, c'est donc la déclaration de grossesse, c'est la présentation un petit peu de l'établissement. Donc on constitue un dossier maintenant qui est informatique. On suit bien sûr les bilans sanguins. On s'assure du groupe sanguin, du rhésus, toutes les sérologies, que ce soit le sida, la syphilis, la rubéole, la toxoplasmose. Donc ça, c'est des parties d'examen sanguin. Après, on va peser, il faut le faire gentiment, puis ça peut être une partie de rigolade. Bon, c'est quand même entre 12 et 15 kilos. Je suis sage-femme depuis les années 80. On se cantonnait depuis longtemps à 15 kilos. On revoit des prises de 20, 30 kilos. C'est le travail pour après. Donc, on prend la tension, on mesure donc la hauteur de l'utérus. Ça, c'est un repère pour nous. Il faut que l'utérus croît de façon harmonieuse toute la grossesse. Et puis, un examen du col de l'utérus pour s'assurer que tout aille bien. Après, il y a la partie médicaments, confort au niveau des jambes. On prescrit de plus en plus des bas de contention maintenant. Ça, ce sont vraiment les consultations. On fait en plus, depuis plusieurs temps, l'entretien du quatrième mois. C'est plus là le côté social, le côté bien-être de la patiente, le côté confort, voilà. Nous, ici, c'est vraiment le côté obstétrical. Donc, ça s'appelle des consultations de PMI, c'est protection maternelle et infantile. Et on s'assure du bien-être de la maman et du fœtus.
Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'écoute, c'est de l'échange, c'est du conseil. Votre travail, c'est vraiment de créer ce lien, cette sérénité.
Voilà, au départ, c'est vrai que des fois, c'est un peu tendu. Et puis, au fur et à mesure, elles arrivent carrément avec la liste. Qu'elle mette sur le bureau. Alors voilà, j'ai toutes ces questions à vous poser.
On voit aussi de plus en plus de jeunes femmes.
On revoit des grossesses, oui, de 14-15 ans, c'est vrai. C'est la société qui change, hein. On va pas dire qui évolue, mais on va dire qui change. Bon, il y a beaucoup de chômage, hein. Il y a des jeunes filles qui s'ennuient. Et puis, voilà, on fait un petit avec le copain. Bon, mais c'est des couples qui travaillent pas, qui nous inquiètent. Nous, on voyait pas ça avant. On a un petit côté social. On travaille beaucoup les assistantes sociales, ce qu'on faisait pas avant. Et puis, elles ont besoin de nous, elles se confient, hein, c'est vrai. On les porte presque des fois. Moi, des fois aussi, je me dis, je suis peut-être âgée, je reflète une image peut-être plus âgée. Est-ce que les jeunes vont accepter? Et puis oui, ben oui, ça passe très bien, quoi. Il n'y a pas de souci.
Et parmi les moments magiques, peut-être aussi quand on vient ici, il y a quelque chose qui te fait toujours un petit peu rêver, c'est quand on entend le cœur du bébé battre.
Ah oui, puis ça c'est merveilleux parce que généralement la maman va sentir son bébé bouger vers 4 mois, mais avant, ces 3 consultations avant, elle ne le sent pas. Elles ont le désagrément, des nausées, des vomissements, et puis c'est tout. Et là, quand on met la sonde et puis qu'on entend ce cœur battre, c'est un moment merveilleux pour elle. Et puis la grosse attente, c'est savoir si c'est une fille ou un garçon. Et on le sait vers 22 semaines.
On va justement accueillir quelqu'un qui vient pour une consultation, on va peut-être pouvoir assister à un de ces petits moments magiques.
Voilà, on va voir cette petite dame qui a 4 mois et qui justement ne sent pas trop bouger son bébé et on va le lui faire entendre.
Ouais. Enlevez le sac, venez vous allonger. Voilà, le bébé il bouge bien.
Oui.
Alors on est à 23 semaines, donc là c'est bien, votre utérus il est bien concordant hein, avec l'âge de la grossesse. Là, le ventre, il fait pas mal.
Non.
Allez, on va écouter. Là, son cœur. Voilà, c'est bien régulier, tout va bien.
Notre troisième rendez-vous au sein de l'hôpital de la mère et de l'enfant à Limoges pour découvrir une profession que nous découvrons depuis lundi. Cette profession, c'est celle de sage-femme. Nous approchons de l'accouchement qui est peut-être le rendez-vous phare autour de ce métier de sage-femme. On verra ça demain, mais pour l'instant, avant d'accoucher, il faut s'y préparer. Avec nous, Mireille Rebera qui est sage-femme. On va parler de ce qu'on appelait PPO, que finalement on appelle PPN maintenant.
C'est ça. La PPO signifiait la préparation prophylactique obstétricale, un terme un petit peu compliqué.
Pas très glamour.
Voilà. Qui maintenant donc s'appelle PPN, qui lui signifie préparation à la parentalité et à la naissance. Il y a 6 séances, des séances thématiques qui ont lieu une fois par semaine, le mercredi après-midi. Donc ces séances, comme le nom l'indiquait, préparation à la parentalité, sont ouvertes aux mamans, mais aussi aux futurs papas. Alors les points qui sont abordés, on a donc l'alimentation du nourrisson, donc soit l'allaitement maternel ou l'allaitement artificiel. Alors nous parlons du trousseau, les vêtements à acheter, ce qui est nécessaire pour l'enfant. On parle aussi donc d'une durée d'hospitalisation, du retour à domicile, la respiration, la base de la détente. On leur apprend quelques petites postures pour pallier aux petits désagréments de la grossesse et douleurs ligamentaires. Donc voilà.
On est bien préparé, ça se passe beaucoup mieux.
Beaucoup mieux et surtout que se préparer à l'hôpital permet de connaître le personnel, les lieux et déjà c'est une bonne approche. Elles sont moins angoissées, elles savent où se rendre et quel chemin emprunter, si c'est la nuit, le jour.
Alors, on s'approprie un petit peu les lieux. Là on est dans un endroit, donc c'est ici que les choses se passent, assez zen. On a une petite musique de relaxation derrière nous. On l'a dit, donc il y a de la théorie, puis de la pratique.
Voilà, donc on fait des petits exercices de détente, on apprend la respiration abdominale. Bon, il y a beaucoup de mamans qui, des fois, déjà ont fait une approche parce qu'elles ont fait du yoga ou bon, elles connaissent.
C'est-à-dire qu'on a tous en tête apprendre à faire le petit chien, c'est ici que ça se passe ?
On n'apprend plus à faire le petit chien, c'est fini.
Oh, les clichés.
Ah, terminé. On respire calmement. Et en expirant, on pousse en expirant, on ne fait plus du tout le petit chien.
Donc ça veut dire que c'est sans doute quelque chose qui trottait dans la tête de beaucoup de monde, d'où l'utilité de venir à ces séances qui ne sont pas obligatoires donc, mais fortement conseillées.
Alors, ces séances ne sont pas obligatoires, c'est une fois par semaine. Et le groupe est constitué que de 8 patientes.
On dépasse largement les 2000 accouchements désormais par an, ici à l'hôpital de la mère et de l'enfant. Autant dire que si on veut participer, faut anticiper, faut réserver, comment ça se passe?
Les patientes demandent très tôt à l'accueil pour être inscrites. Et malheureusement, la plupart ne peuvent pas faire leur préparation ici. Mais bon, elles le font avec mes collègues sages-femmes de PMI, de ville. Donc, il n'y a pas de souci, elles sont toutes préparées.
Ça veut dire qu'il faut réserver presque avant la conception, si j'ai bien compris, pour faire partie des ateliers?
Oh, peut-être pas quand même. Peut-être pas quand même. Mais bon, c'est vrai qu'il faut s'y prendre assez tôt.
Ce sont des séances qui sont remboursées d'ailleurs par la Sécurité sociale. C'est important de le préciser.
Toutes les séances sont remboursées par la Sécurité sociale, effectivement. C'est 6 séances. Bon, nous, on fait 6 séances de 2 heures. Mais bon, on n'est pas obligé de faire 2 heures non plus. Il n'y a pas vraiment de temps imparti pour chaque séance.
C'est une méthode d'ailleurs qui est liée à une femme.
Oui, c'est la méthode de Bernadette de Gasquet qui a instauré une méthode d'un accouchement en fonction des postures. Alors on peut accoucher donc en étant installé sur le dos, en position position dorsale, mais aussi sur le côté. Une position qui plaît bien aux mamans et qui est très favorable à l'accouchement.
Venez ici, vous allez apprendre plein de choses, vous le voyez. Ça concerne uniquement le premier accouchement ou on revient quand on en est à son deuxième, à son troisième enfant?
Ça concerne le premier accouchement, mais ça peut aussi concerner une maman qui a déjà eu des enfants, qui n'a peut-être pas accouché ici pour le premier et qui veut un petit peu mieux connaître les lieux et le personnel et le fonctionnement. Mais ça peut être aussi une maman qui a déjà accouché ici et qui veut revenir.
Alors l'intérêt, c'est aussi de se rencontrer entre futures mamans, d'échanger des expériences, des questionnements peut-être.
C'est ça, les mamans aiment bien parce qu'elles se retrouvent, c'est un moment de détente, un moment à elles, et elles aiment bien discuter entre elles, elles font des rencontres, généralement à la fin des sixièmes cours, elles s'échangent les numéros de téléphone et elles se demandent après, quand elles ont accouché, si la collègue de groupe, elle aussi a accouché, si ça s'est bien passé, et ça crée des liens.
Il y a une petite compétition, et puis les papas parlent foot au fond de la salle, c'est ça en fait?
Non, quand même pas. Les ballons ne servent pas à ça.
Ils sont un peu gros, hein, vos ballons, pour tout dire. En tant que sage-femme, dans ce genre de réunion, qu'est-ce que ça vous apporte? C'est cette transmission, c'est toujours un plaisir de préparer ces futures mamans et de leur permettre de vivre sereinement les choses?
Ah oui, tout à fait, c'est très agréable. On a le temps, on discute. Les mamans sont très intéressées. Elles aiment bien savoir ce qui va se passer. Et c'est vrai que c'est une autre approche par rapport à l'hospitalisation. On prend plus le temps. Il n'y a pas de thérapeutique, c'est juste relationnel.
Du plaisir.
Voilà, c'est ça.
On va voir comment ça se passe concrètement, puisque là, il y a une séance qui débute dans quelques instants. On va se faire tout petit et on va voir comment les choses se déroulent.
Oui, dame. Donc là, aujourd'hui, moi, je voulais vous parler du séjour à la maternité. Donc, pour voir un petit peu comment ça s'est déroulé. C'est vrai qu'avec une césarienne, vous pouvez éventuellement sortir au cinquième jour.
Compte le jour de l'accouchement dans le séjour maternité?
Non. Tu l'as compte pas.
C'est vraiment une fois qu'on arrive dans la chambre.
Pour
le papa, il peut rester?
Oui.
Peut-être prendre une nuit, deux nuits?
Comme il veut. Après, bon, il y a des règles de l'accompagnant, donc les horaires pour les douches des papas.
Ah oui, ils peuvent prendre la douche ici.
Ah ben oui, ils peuvent prendre dans votre salle de bain, ils peuvent prendre la douche. Mais bon, on leur demande de ne pas la prendre à 9h du matin, si vous voulez, parce que nous, on risque de venir quand même dans la salle de bain. On a beaucoup de vécu.
C'est notre quatrième rendez-vous dans l'univers des sages-femmes que nous découvrons depuis le début de cette semaine et nous allons évoquer peut-être le sujet principal. Quand on pense sage-femme, on pense forcément accouchement et c'est de cela dont nous allons parler essentiellement dans cet avant-dernier rendez-vous. Sarah Webb avec nous qui est sage-femme. On va parler de l'accouchement de façon très théorique. Ici, on en pratique énormément. On a une moyenne.
Alors, l'année dernière, on a terminé à peu près autour de 2800 accouchements. Bon, en notant qu'on a une nette augmentation ces dernières années.
Donc, j'ai pas la calculette. 2800 sur 365 jours, ça nous fait une moyenne de combien d'accouchements par jour?
Très variable. Bon, on est entre 8 et 10 par jour, voire parfois beaucoup plus ou un petit peu moins. Donc, c'est très aléatoire. Hein. L'obstétrique fait partie de cette discipline où rien n'est prévisible.
Alors, ça veut dire qu'il y a une gestion d'équipe à réaliser.
Donc, on a toujours 3 sages-femmes de garde, hein, de jour comme de nuit, des auxiliaires de puériculture, une équipe de médecins de garde en permanence, anesthésistes et pédiatres. Après, concernant les sages-femmes, on peut avoir recours à une de nos collègues qui est ce qu'on appelle, on va dire, une sage-femme de suractivité qui vient en renfort, qui est présente dans le service tous les jours, par contre pas la nuit, qui vient nous aider quand on a besoin, soit faire un accouchement, soit faire des consultations, enfin ce qu'on lui demande en fait.
Donc ça veut dire que c'est un rythme quand même assez intense, vous êtes 3 voilà. Pour 10 accouchements en moyenne par jour, c'est quand même un rythme assez effréné.
Oui, on s'ennuie pas, ça va vite.
Et on verra que ça demande pas mal d'énergie le moment venu. Là on est donc en salle de naissance, on n'y pratique pas donc uniquement des accouchements, qu'est-ce qui s'y passe exactement?
Alors on accueille toutes les femmes à partir de 14 semaines, soit pour des consultations en urgence, des femmes qui sont inquiètes, qui sont en dehors des plages de consultation prévues. On accepte tous les transferts des maternités périphériques pour des grossesses à risque. Et effectivement, voilà, on fait bien sûr l'accouchement et puis les suivis des accouchements un peu compliqués qui nécessitent une surveillance bien particulière.
Vous avez un œil sur des écrans qui vous permettent de contrôler ce qui se passe autour de vous au niveau des différentes patientes?
Voilà, on a des moyens de surveillance qui sont quand même assez développés, soit concernant le rythme cardiaque fœtal, et aussi pour surveiller bien sûr les constantes de la mère. Donc tout est centralisé dans ce bureau. Donc c'est vrai, il y a toujours du passage. Tout le monde a toujours un œil, une collègue ou nous, les étudiants, des médecins sur ce qui se passe, ce qui permet d'alerter vraiment en cas de gros soucis. On est beaucoup plus réactive et tout le monde est sur le coup. Hein. Ça peut être très calme et d'un coup basculer dans Beyrouth, quoi. Tout peut aller très bien et tout peut basculer d'un coup.
Et ça veut dire que on a parlé depuis le début de la semaine des préparations à l'accouchement, la relation que les sages-femmes vont avoir avec la mère. Là, quand on arrive à quelques jours, quelques heures parfois de l'accouchement, c'est une relation qui change encore, qui se renforce entre vous et la future maman?
Mais c'est quand même un grand moment de leur vie, du couple. Donc c'est vrai qu'on a, je dirais pas une complicité, parce que bon, le feeling est toujours différent en fonction des mamans, mais il y a quand même quelque chose qui se crée. Bon, ça se passe bien en général, ça se fait de nous. Mais...
Dans une seconde, on va filer justement sur la phase d'accouchement. Juste avant, on va parler des préparatifs, puisque nous avons Cyril, notre homme sage-femme qui était avec nous il y a quelques jours, qui est en train de préparer son matériel. Ce n'est pas cet accouchement-là qu'on va suivre, c'est celui de Jeanne-Marie qui est en train de se préparer elle aussi, autre sage-femme de l'équipe. Simplement Cyril, un petit mot sur les derniers gestes avant de passer à cet accouchement.
C'est tout préparer pour que l'accouchement se passe dans les meilleures conditions et d'avoir tout de près au niveau des thérapeutiques sous la main. Si on en a besoin.
Voilà, c'est ce dont on a besoin, voire plus.
Voilà. On anticipe au maximum pour pas être pris de court au moment où ça va se passer.
Donc ça, c'est dans quelques instants maintenant l'accouchement. Simplement, peut-être aussi, Sarah, un mot sur ce qui va se passer après. Il y a des premiers gestes, évidemment, une fois que bébé est né, les premiers gestes de la sage-femme à effectuer.
Bah, écoute, juste une petite aspiration pour lui enlever le liquide qui peut lui rester dans la bouche. On vérifie juste que les narines soient bien perméables, ainsi que l'œsophage pour la première alimentation.
Donc ça, c'est les tout premiers gestes. Et ensuite, voilà. On ramène le bébé à la maman, aux parents.
Alors oui, on peut le ramener pour faire du peau à peau, ou sinon, il y en a qui préfèrent qu'on l'habille directement, les mamans qui ne veulent pas avoir tout nu contre elle. En plus, on refait le petit pansement du cordon et puis on donne des vitamines, voilà, juste les premières vitamines de la
On est chouchouté, hein.
C'est ça.
On va souhaiter plein de bonnes choses à la maman que nous allons rejoindre. Jeanne-Marie nous attend en salle d'accouchement, donc on se fait discret et on se glisse.
Alors,
et c'est notre dernier rendez-vous dans l'univers de cette profession sage-femme que nous découvrons depuis le début de la semaine avec nos différents invités. Nous sommes toujours ici à l'hôpital de la mère et de l'enfant à Limoges. Dernière invitée, autre sage-femme, Karine Bompard, qui nous accueille pour évoquer l'après-accouchement. C'est ce qu'on appelle dans le jargon la suite de couches. Vous nous expliquez en quelques mots en quoi ça consiste?
Alors, dans les grandes lignes, déjà, les suites de couches, qui n'est pas un terme très flatteur à la base, c'est plutôt des suites de naissance, c'est-à-dire concernant l'enfant né, sa prise de poids, sa mise en route de l'alimentation, que ce soit au biberon ou avec un allaitement maternel. Et ça concerne aussi les suites de naissance de sa maman, concernant ses examens cliniques, si tout revient bien en place après son accouchement. Et on est particulièrement attentif aussi à la relation mère-enfant, voir un petit peu comment ça s'instaure, et éventuellement la favoriser dans la limite de nos possibilités.
Alors, ça veut dire qu'il y a beaucoup de questions avant la naissance, mais quand le bébé est là, c'est une nouvelle vision, on a d'autres questions qui viennent qu'on n'avait peut-être pas anticipées, donc c'est là l'importance de la présence de la sage-femme encore pendant quelques jours.
Absolument, accoucher d'un bébé nécessite après pour s'en occuper un certain apprentissage, surtout quand c'est son premier, il y a des petites choses à décoder, il faut apprendre à se connaître l'un l'autre, que ce soit la maman qu'elle apprenne à connaître les pleurs de son bébé, ou ce bébé qui découvre sa maman aussi, donc il faut apprendre à s'occuper l'un de l'autre.
Alors il y a aussi le papa, hein, on ne va pas l'oublier, vous le prenez là aussi en compte, vous êtes là pour créer le lien sur l'ensemble de la petite famille finalement.
Oui, 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 tout à fait, le papa trouve sa place très rapidement, et même convié à faire les soins de son bébé au même titre que la maman.
Il y a des ateliers aussi que vous proposez pour des choses très, très pratiques, des gestes qu'ensuite on va avoir à prodiguer peut-être une fois rentré seul à la maison.
Alors nous avons effectivement deux types d'ateliers, la diversification alimentaire, mais qui est animée plutôt par notre diététicienne du service, et un atelier sur les massages bébés pour leur bien-être qui est plutôt animé par une kiné de notre service.
Et ça veut dire qu'en général les parents sont curieux, quand bébé est là, on a envie d'apprendre plein de choses, de savoir ce qu'on peut faire, être sûr de pas faire les mauvais gestes, d'offrir le maximum de confort à bébé, donc on est assez curieux.
Oui, bien sûr, mais ça fait partie de l'apprentissage tout ça. Ça vient au fur et à mesure, pendant le séjour, et puis même par la suite, à la maison.
Alors justement, pour parler de séjour, combien de temps reste en règle générale une maman dans le service avec vos accompagnements, vos conseils ?
Je vais pas rentrer dans les détails, mais en général, c'est entre 4 et 6 jours à peu près, le temps de séjour, en fonction du mode d'accouchement, soit une césarienne, soit un accouchement voix basse.
Et ça veut dire qu'ensuite, on peut avoir un accompagnement à l'extérieur une fois rentré à la maison ?
L'accompagnement à la maison se situe plus au niveau de la médecine générale avec le médecin traitant, ou alors par le biais de la protection maternelle infantile qui peut donner des indications aux mamans qui vont consulter les péricultrices dans les centres médico-sociaux.
Quoi qu'il arrive, on n'est pas abandonné, ça veut dire qu'on peut aussi revenir ici par exemple à l'hôpital de la mère et de l'enfant, il y aura toujours une oreille attentive.
Oui, 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 bien entendu.
Pour terminer, évidemment, depuis toutes ces années, je suppose qu'il y a des milliers de bons souvenirs. Ce sont des histoires différentes avec ces parents que vous avez vu passer dans le service. Qu'est-ce qui vous reste ? Qu'est-ce qui vous marque encore aujourd'hui dans cette aventure de sage-femme ?
Parmi les meilleurs souvenirs, c'est de voir quand même la joie de ces papas et de ces mamans qui deviennent parents suite à la naissance de leur enfant. C'est ce que je retiens de plus positif. Et je crois que ça va continuer longtemps.